Bon, ce qui est plutôt bien, c'est que c'est organisé et en même temps pas du tout organisé. Donc, ce soir, nous accueillons des gens qui ne sont pas du tout organisés. Donc, une conférence, une rencontre, un sujet sur les violences qui se passe depuis quand même quelques semaines dans un déroulement qu'on doit avoir, sur lequel on doit avoir un regard un petit peu important. L'initiative, et nous accueillons donc l'organisation de cette conférence avec Jean-Marc Ezrin d'Alternative Libertaire. Et c'est par lui, et puisqu'elle est là, puisqu'il se cache un peu, Chloé, notre collaboratrice de la librairie. Donc je remercie Jean-Marc. Et les photos que vous avez tout autour, Eric, alors ça c'est très très simple pour moi de m'en souvenir, l'herbré. Est-ce que je l'ai bien prononcé ton nom ?
C'est ça.
Voilà, qui est photographe, qui couvre à chaque manifestation sur Toulouse et qui essaye de fixer un petit peu au niveau de photographie, qui sont assez impressionnantes sur ce que c'est que la violence. Et pas uniquement. Vous allez avoir quelques interventions de différentes personnes. Alors, moi, je ne veux pas prendre la place de ceux qui sont organisateurs, hein, donc Alternative Libertaire. Mais je vous présente quand même Geneviève Azam, Caroline, qui mange un gâteau au chocolat, et
Marius et Tristan.
On est presque à Marseille. Je vous remercie tous. Qui commence ?
Geneviève.
Bon. Allez, tu t'y colles direct.
Je m'y colle direct.
Geneviève va nous présenter, elle, sa démarche est de présenter deux ouvrages sur le sujet.
Bon, bonjour à tout le monde. Quand Jean-Marc et Chloé m'ont demandé de venir présenter les livres, j'ai bien spécifié que je n'étais absolument pas gilet jaune-ologue. Parce que c'était un peu un moment où j'étais un peu irritée d'entendre sur les radios dominantes, disons, tout un tas d'interprétations et on convoque des sociologues maison, etc., pour parler des gilets jaunes. Et, bon, bref, donc je ne voulais pas être absolument pas dans ce rôle-là. Mais il se trouve qu'il y a deux livres qui sont sortis sur ce mouvement, et que ça me paraît assez important que justement il y ait des traces, alors aussi bien des photos que des vidéos. Bon, on a beaucoup de vidéos, mais aussi il y a de la trace écrite quand même. C'est important pour la suite, pour ce que ce mouvement va devenir et comment on va pouvoir le regarder aussi après avec du recul. Alors je les présente très rapidement. Celui-ci, je commence peut-être par le plus simple. Le fond de l'air est jaune, c'est au seuil. Comprendre une révolte inédite. C'est des textes qui sont réunis et présentés par Joseph Confavreux, qui est journaliste à Mediapart, et qui donc a collecté les textes qui lui paraissaient importants, qui ont été écrits à chaud sur les gilets jaunes. Bon, l'intérêt de ce livre, avant de parler du fond, sur la forme, je le trouve assez beau, parce qu'il y a des photos, et surtout, il y a ce que nous donne ce mouvement, il y a répertorié à beaucoup de ce qu'on a pu lire sur les murs de Paris ou d'ailleurs, et on a pu voir que c'est un signe aussi de ce qu'est ce mouvement-là, une grande inventivité aussi, à nouveau, dans l'écriture, dans la communication, etc., ce qu'on avait un peu oublié avec les manifestations beaucoup plus ritualisées auxquelles nous étions habitués du mouvement social, qui finalement donnait peu de créativité. Alors que là, il y a une créativité dans ce qui s'écrit sur dans ce que les Gilets jaunes ou des amis des Gilets jaunes écrivent sur les murs. Donc là, on les retrouve tous, ces slogans, enfin ces slogans, ces mots quoi, qui sont écrits, et ça, je trouve ça, je pense qu'il faut les garder, parce que c'est vraiment, c'est le signe d'une époque, c'est très inventif, poétique, politique, poétique, c'est bon, voilà.
Drôle.
Drôle, oui, c'est joyeux. C'est joyeux, c'est l'art du détournement aussi. Ça, bon, moi je suis un peu plus âgée, mais cette histoire du détournement, c'était quand même quelque chose qui était un peu fondateur d'une culture des années 70, disons. Hein. Et là, on retrouve cet art du détournement, de l'ironie. Bon, ça, c'est vraiment. Et ça, de ce point de vue-là, ce livre, il est bien. Alors, il est écrit par des. Il y a des universitaires. Mais qui ne s'expriment pas en tant qu'universitaires, qui mettent leur savoir au service d'eux, mais qui sont engagés dans le mouvement, enfin engagés, en tout cas qui sont présents, qui n'étudient pas ça du haut d'une chaire universitaire. Il va y avoir sûrement beaucoup de mémoires, de thèses sur les Gilets jaunes. Bon, là, c'est pas ça. Hein, ce sont des penseurs engagés dans le mouvement. Donc, ce petit livre est très bien, je dirai après le contenu. Celui-ci, c'est AOC. Ce sont des textes qui sont parus sur AOC. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît AOC. C'est très intéressant. Ça fait partie de plusieurs titres qu'il y a en ligne. Peut-être vous connaissez Lundi Matin ou des choses comme ça. Mais AOC, je ne sais même plus ce que ça veut dire exactement, Analyse Opinion Critique. C'est né en janvier 2018. Ça s'est beaucoup construit au moment de la loi travail, etc. C'est un journal en ligne dans lequel publient beaucoup, alors là, plus universitaires, chercheurs, c'est plus orienté universitaires, chercheurs. Et donc, c'est accessible par Internet, c'est gratuit, etc. Et donc là, eux, ils ont sorti, c'est la découverte, ils ont choisi un certain nombre de textes qui a été écrit par des philosophes, des sociologues, etc. Bon, je les ai relus cet après-midi. Le problème qu'il y a, peut-être, c'est que c'est le début du mouvement. Alors, c'est très important comme archive, mais par rapport à ce qui se passe maintenant, ce qu'est devenu le mouvement, bon, c'est en particulier la question de la violence est très, très peu abordée, parce que c'était encore une période qui était différente de celle de maintenant, de ce point de vue-là, moins radicalisée, disons, de ce point de vue-là, du point de vue de la violence répressive. Voilà, celui-ci, il y a quand même l'image, d'ailleurs, de la photo, c'est aussi des photos de barricades en feu, etc.
Préciser qu'AOC, c'est pas gratuit.
Ah, c'est pas gratuit. Non. Alors pourquoi, moi, j'arrive à la voir.
C'est 12 euros par mois, quand même.
Il y a certains articles qui sont gratuits, mais pas tous.
Ah, mais voilà, parce que moi, je paye pas, moi.
C'est le déchange, en tout cas.
Ah, c'est 12 euros par mois. Ah. D'accord. Vous êtes abonné, vous?
Oui, non, c'est pour ça.
C'est bien.
Oui, c'est bien, non, mais je dis pas que la revue est pas bien, mais je dis que c'est pas gratuit. Quoi.
D'accord.
Alors, après, bon, c'est vrai que l'éclairage, ce qui me semble par rapport aux Gilets jaunes, c'est aussi des articles antérieurs quasiment. Enfin, des gens qui ont un peu rattrapé le truc et qui ont, à partir de leur analyse, rediscuté sur les Gilets jaunes. Donc, c'est intéressant, mais l'autre est beaucoup plus frais et un peu fringant. Quoi.
Un peu fringant, voilà, je trouve.
Voilà.
Plus dedans, quoi.
Oui, plus dedans.
Plus dedans, moins. Bon. Après, ça, c'est intéressant, en particulier. Bon, je ne vais pas choisir obligatoirement. Il y a un article de Sandra Logier, puisque c'est une réunion de libertaires, un article de Sandra Logier sur la démocratie, qui est, à mon avis, vraiment excellent sur l'émergence d'une revendication démocratique, le refus de la délégation, le refus de la représentation, toutes les questions que ça peut poser et qui, je pense, font écho dans la pensée libertaire, dans ce que pourrait être une démocratie directe. Bon, ça, c'est important dans son article. Il y en a plusieurs. Et dans les deux, d'ailleurs, ça tourne beaucoup plus autour de ce qui émerge de ce mouvement, c'est quand même l'idée de justice. Hein, c'est vraiment ce qui lie ce mouvement, la justice et l'aspiration démocratique. Et c'est peut-être l'aspiration démocratique qui en fait la radicalité. C'est parce que par rapport au pouvoir même qui cherche absolument avec qui négocier, qui cherche un petit peu les négociateurs de services qui permettent un petit peu d'étouffer le mouvement, là, il y a un refus très pensé, hein, de refus de la délégation et de la représentation. Bon. Et un autre article que j'ai trouvé très intéressant, qui fait écho aussi à toute une pensée libertaire, c'est comment, à un moment donné, même si on refuse la délégation, même si on refuse la représentation, il y a un moment où, pour que le mouvement perdure, il y a la question de son institution et de son auto-institution. Pas de son institution dans les institutions, mais de son auto-institution, ce que Castoriadis appelait l'auto-institution. Et là, il y a plusieurs articles qui évoquent, à juste titre, et ici surtout peut-être, l'appel de Commercy, ou bien l'appel de Saint-Nazaire, c'est-à-dire qui renouvelle avec l'idée d'une auto-institution du mouvement. Et beaucoup de ces articles partagent l'idée que la faiblesse du mouvement, à un moment donné, peut être l'absence d'auto-institution du mouvement, et donc quelque chose qui reste trop gazeux, enfin je ne sais pas trop, et qui peut être affaibli justement sur la durée. Bon, voilà ce qui me paraît important pour une discussion dans les... par rapport à la pensée libertaire ou anarchiste, peu importe, c'est cette émergence de la question démocratique. Et c'est pas, elle n'est pas théorique, ça s'est vécu sur les ronds-points, c'est l'occupation de l'espace public. C'est l'occupation de l'espace public, je crois que là aussi, le mouvement a été attachant, parce qu'il a permis à plein de gens de récupérer l'espace public qu'on avait perdu. Nous n'allions plus en manifestation place du Capitole à Toulouse, hein. C'était interdit. Les manifestations syndicales, etc., elles étaient cantonnées sur les boulevards en général, les grandes manifestations le long des boulevards. Le centre-ville était interdit, le centre de la cité était absolument interdit, le lieu du pouvoir était interdit, et justement ce mouvement a permis de récupérer, de se réapproprier ce centre. Donc ça, je pense aussi que c'est très important. Il y a autre chose aussi qui me paraît important, qui est dit dans plusieurs articles, c'est que, et là, ça, je pense que ça oblige à repenser, y compris toute la pensée de l'émancipation telle qu'elle a été faite par la gauche et même l'extrême gauche sous toutes ses formes, la gauche plus radicale sous toutes ses formes, c'est un mouvement assez informe. Et c'est un mouvement composite. Il n'y a pas un acteur. On a été habitué bien souvent... dans les pensées de l'émancipation, il y avait un acteur majeur qui portait finalement la transformation sociale. Là, il n'y a pas un acteur majeur. Bon, il n'y a pas de porte-parole, mais c'est très hétéroclite. Il y a des petits entrepreneurs, il y a des commerçants, il y a beaucoup de femmes seules qui sont beaucoup dans les travaux de soins, etc. Il y a des chauffeurs de taxi, bref. C'est très hétéroclite comme mouvement, et il y a eu, en tout cas, l'intelligence, sans doute, de ne pas le réduire, justement. De garder ça, qui peut être aussi une faiblesse au bout d'un certain temps, mais en tout cas, qui a été une force, quelque chose qui reste informel, qui n'est pas derrière un drapeau et derrière un programme, quelque chose qui est informel, et donc, et qui fait que ça peut continuer. En tout cas, ça s'est souligné dans plusieurs articles, cette idée-là. Voilà. Et cette nécessité, moi je pense que pour les libertaires, c'est important, de comment un tel mouvement, une telle force peut s'auto-instituer pour vraiment assurer une pérennité. Je dis bien, quand je dis instituer, c'est pas s'institutionnaliser dans les structures institutionnelles, c'est s'auto-instituer. Quelle structure peut sortir de là? Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Alors sur la violence, je dis rien, parce qu'il n'y a pas d'article sur la violence en tant que telle dans ces livres. Il n'y a pas de il y a pas vraiment d'article peut-être là-dessus.
Peut-être l'article de Sophie.
De Sophie Vaniche.
Oui. Elle parle de la révolution. En fait.
Oui, elle parle de la révolution. Là, il y a un peu. Un peu. Mais qui est décalé par rapport.
Oui, ouais.
Après, bon, là, c'est un point de vue personnel. Moi, ce que je reconnais vraiment de ce mouvement, c'est qu'il a, en plus, bon, c'est assez peu dit. Et ça y est pas, là, je le regrette, mais ça va venir dans d'autres articles, je pense. C'est que, finalement, cette revendication de justice, elle s'accompagne, elle s'inscrit dans un monde, je pense que c'est une des premières révoltes populaires par rapport à l'énergie. Et par rapport à la catastrophe énergétique que nous vivons. C'est parti quand même de la hausse du prix de l'essence. C'est parti de là. Et les Gilets jaunes ont permis de voir comment nous étions dans une société totalement, totalement dépendante du pétrole et des énergies fossiles. Et dépendante à un point terrible, parce que c'est vrai que leur refus de la taxe, c'était parce qu'ils n'ont pas le choix. Et donc, ne pas avoir le choix, c'est une dépendance extraordinaire par rapport à un système qui a structuré l'ensemble de la sphère sociale. Or, nous savons qu'aujourd'hui, il faut sortir de ce monde du pétrole et des fossiles. Et on voit que ce monde du pétrole et des fossiles, il a été structurant pour le capitalisme, appelons-le comme on veut, hein, en tout cas pour cette société dans laquelle nous sommes, qui s'appelle capitaliste, c'est structurant. Et en ce sens-là aussi, ils ont appuyé, je crois, là où ça fait mal. Et ils ont montré qu'il ne pourrait pas y avoir de transformation écologique sans justice. Que c'est absolument de l'ordre de l'impensable. Et ça aussi, c'est énorme. Alors on a essayé de monter les gilets jaunes contre ceux qui portaient davantage des revendications sur le climat, etc., etc., en disant ils sont anti, machin, pas du tout. Pas du tout. Ils ont montré que l'écologie, c'est ce qu'on mange, comment on se transporte, ce qu'on boit, c'est-à-dire c'est absolument le quotidien. C'est le milieu de vie. Et qu'on est en train de détruire les milieux de vie. Et que les gens défendent des milieux de vie aussi, tout simplement. Et ça, je pense que c'est important par rapport à ce mouvement des Gilets jaunes. Voilà.
Merci. Du coup, on peut passer peut-être aux interventions. Alors, l'idée, c'est qu'on va faire des interventions très courtes, et ensuite, on aura un grand moment pour échanger sur les différents points. Sachant qu'évidemment, le sujet de la violence est quand même un sujet extrêmement vaste et un débat. Hein.
Ça troll.
Sur ces questions-là. Alors peut-être, je veux dire, donc, cette soirée est organisée en lien avec la Librairie Fleury, puis Alternative Libertaire, qui est donc une organisation anarchiste, communiste libertaire, qui est présente sur tout le territoire en France et même en Belgique. Et je ne vais pas trop développer là-dessus, mais vous aurez des éléments sur la table de presse là-bas si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et on a notamment un journal en fait en ligne, plus un journal papier, où tous les mois on publie des articles d'analyse et aussi des articles d'actualité. Donc je vais commencer par dire peut-être quelques mots d'introduction sur le débat de ce soir. Parce que c'est vrai que la question de la violence, c'est une question qui est à la fois peu traitée et beaucoup traitée. C'est-à-dire qu'elle est peu traitée sous des angles d'analyse un peu plus général, mais évidemment c'est une question qui est très envahissante sur la façon dont le mouvement des Gilets jaunes est perçu à la fois médiatiquement et par la classe politique. Et donc depuis 4 mois, en fait, cette question de la violence est devenue quand même un élément politique assez important au sein du mouvement des Gilets jaunes et par rapport à la question du mouvement des Gilets jaunes. C'est la violence évidemment policière, tout d'abord, mais également la question de la violence sociale, puisque beaucoup se sont étonnés de la très forte flambée de violence qu'il y a eu au tout début du mouvement des Gilets jaunes, qui n'est pas forcément la même violence qu'on retrouve actuellement. Sur l'acte 3 ou 4, c'est le 1er décembre et le 8 décembre, en gros, il y a eu des violences très importantes à Paris, à Toulouse également. Et donc la question de savoir qu'est-ce qui vient d'expliquer aussi cette forte violence. Et puis surtout la question en face, je pense, plus globalement, c'est l'action de la violence politique aujourd'hui. Parce qu'on a parlé d'enjeux démocratiques, et on voit bien qu'il y a un raidissement du pouvoir très fort à l'égard de toute opposition, qui passe à la fois par les violences policières, mais aussi par la violence verbale, des discours qui sont extrêmement autoritaires, et également par l'évolution du droit. Aujourd'hui, l'évolution du droit vient inscrire sous une forme d'euphémisée, du droit, etc., et finalement des pratiques assez autoritaires. Alors en fait, cette question de la violence, alors pourquoi on a fait ce débat-là ce soir ? Ça repose sur plusieurs constats que j'imagine que la plupart des personnes ici connaissent. Donc moi, j'ai passé très très vite, hein. Je prends juste 5 minutes pour donner ces quelques éléments de contextualisation. Donc vous le savez, évidemment, le premier élément qui ressort, c'est une très forte répression puisque les chiffres annoncés donc par des sources indépendantes, certains journalistes ont fait un travail de fond, David Dufresne, il y a aussi des sites internet qui essaient de recenser, on va dire, à chaque acte de gilet jaune, le nombre de blessés. Donc les chiffres sont extrêmement impressionnants, puisqu'il y a à peu près de 2200 blessés qui ont été recensés là depuis 4 mois de mobilisation. Plusieurs décès indirects par rapport à des accidents de circulation en lien avec les barrages gilets jaunes, mais surtout une personne décédée à Marseille d'un tir de grenade, où le contexte de ce tir-là est quand même très flou, et surtout on perçoit bien que cette affaire va vite être étouffée par l'IGPN. Plus de 100 blessés graves, donc des personnes éborgnées, des membres arrachés, des personnes dans le coma, des blessés graves, donc on l'a vu récemment avec la présidente d'attaque à Nice, hein, qui a été poussé par un CRS et qui s'est blessé lourdement. Et donc, avec derrière ça la question des armes qui mutilent les manifestants et les manifestantes à chaque manifestation. Mais cette violence, je dirais, physique, elle est doublée par la violence judiciaire, puisque à l'heure actuelle, il y a eu 2000 condamnations. Et donc ça, c'est les chiffres du ministère de la Justice, donc c'est des chiffres peut-être qui peuvent être plus importants, peut-être, avec 40% de peines de prison ferme. Avec la moitié avec mandat de dépôt. Mandat de dépôt, ça veut dire que vous n'avez pas d'aménagement de peine. Vous partez directement en prison, il y a peut-être un aménagement après, mais en tous les cas, vous êtes en prison. Et surtout, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que 2000 condamnations, mais 1800 personnes en attente d'un jugement. Et en sachant que ces personnes en attente d'un jugement, c'est en général les faits les plus graves. Donc par exemple, c'est les péages qui ont été cramés à Narbonne, etc. Et là, les peines encourues, c'est plusieurs années de prison. Et donc il y a une instruction, d'où le fait que les procès vont avoir lieu plus tard. Et donc on imagine que le taux d'emprisonnement va s'accroître de manière beaucoup plus générale. Mais on est sur des chiffres qui sont extrêmement importants. Et puis un autre chiffre, hein, si on fait du chiffre, c'est plus de 8700 gardes à vue. Donc là, ça va mettre encore en relation avec le nombre de condamnations. Ça veut dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui vont en garde à vue, qui en fait, c'est pas une peine la garde à vue, mais c'est quand même une mesure d'enfermement. Des gens ont été enfermés finalement sans raison, sans commettre d'infraction. Et on voit bien que là, on est sur des logiques finalement d'intimidation de masse avec des gardes à vue préventives menées par la police. Avec évidemment, on ne recense plus maintenant les scandales. On s'est quasiment habitué depuis 4 mois à toutes ces affaires un peu scandaleuses des pratiques policières. Donc en fait, quelque part, ces violences, elles ne sont pas nouvelles. Sur la loi travail, il y avait déjà eu ces questions-là. La violence de la police dans les quartiers populaires, c'est des choses aussi qu'on connaît depuis des années. Peut-être ce qui est nouveau, c'est le changement d'échelle. Aujourd'hui, on est clairement à un changement d'échelle en termes de massification des violences policières, judiciaires. Et ça interroge évidemment sur l'évolution aujourd'hui du régime politique dans lequel on évolue. Alors je ne développerai pas, mais évidemment, derrière ça, il y a la question du recul des libertés publiques. L'évolution du droit, la loi anti-casseurs là, qui a été votée récemment, avec la possibilité pour les préfets d'interdire de manifester les individus de manière complètement arbitraire. L'interdiction des protections, c'est-à-dire interdiction de dissimuler le visage, en fait, ça veut dire interdit de vous protéger contre les violences policières et les flashballs, etc. Et puis, parallèlement à ça, des cadeaux permanents donnés à la police. Donc, vous rappelez, à la loi travail, il y avait les manifestations de policiers qui avaient obtenu des garanties qui demandaient. Les policiers, à l'époque, demandaient quasiment un droit de tuer, quoi. Ils demandaient un droit de légitime défense, entre guillemets, donc un droit de tuer, en fait. Et là, en fait, on voit que depuis des années, le pouvoir politique accorde de plus en plus, à la fois financièrement, à la fois d'un point de vue juridique, des droits renforcés à la police. Et on se doute bien que derrière ça, c'est le fait des pouvoirs politiques qui ont de moins en moins de légitimité politique et qui, du coup, s'appuient de plus en plus sur la force pour gouverner. Et en fait, l'enjeu par rapport à ça. Et pourquoi on fait un débat sur la violence ce soir, c'est qu'il y a un enjeu de visibilité et de nomination sur la question de la violence. Il y a un enjeu à nommer la violence, parce que plein de gens interviennent sur cette question de la violence, des journalistes, des militants, des manifestants, etc. Mais on voit bien que tout le monde n'a pas la même grille de lecture et qu'il y a un enjeu à nommer les choses, quoi, sur comment on perçoit les choses. Par rapport à cet enjeu de visibilité, on perçoit tout à fait un silence médiatique qui est flagrant en France. D'un point de vue général, évidemment, il y a des journalistes qui s'y intéressent. Un silence médiatique qui est peut-être moins marqué aujourd'hui qu'il n'était il y a 2-3 mois sur la question des violences policières. Il y a un véritable déni des violences de la police sur les manifestants. Ce déni s'explique en partie par le travail des journalistes qui, pour travailler, prennent souvent les sources policières, en fait. Quand ils veulent donner le nombre de gardes à vue, les condamnations, les origines des condamnations, ben ils vont aux sources, c'est les préfectures qui fournissent les informations et beaucoup de journalistes se contentent de traduire ces sources policières. Il y a évidemment une connivence idéologique de la plupart des éditorialistes, des éditocrates avec la question du maintien de l'ordre, etc. Et on voit bien que sur l'acte, le dernier acte, il y a eu un déchaînement de violences verbales de la part de beaucoup de journalistes appelant à l'armée, appelant à rétablir l'ordre, disant que la police jusqu'à maintenant s'était maintenue, s'était contrôlée, que maintenant il fallait que la police prenne vraiment les choses en main. Donc un discours, une violence verbale de la part de certains journalistes. Et puis une euphémisation permanente quand il n'y a pas de déni, on va dire quand les choses sont trop évidentes, euphémisation des violences commises à l'égard des manifestants. Rappelez-vous hein, l'histoire des lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont été agenouillés, les mains derrière la nuque. Évidemment, ça a été complètement banalisé dans le discours médiatique. La présidente d'attaque a été bousculée par un policier, pareil, banalisation médiatique, alors que les journalistes avaient les sources vidéo pouvant contredire la version policière et judiciaire à ce moment-là, et il a fallu quelques jours pour que ça sorte. Donc, silence médiatique, mensonge politique et judiciaire, alors je ne m'étendrai pas là-dessus, finalement c'est assez évident, mais il y a un déni complet de la plupart des politiciens, avec la complicité de la justice. C'est quand même hallucinant qu'à Nice, le procureur de la République a fait une conférence de presse, niant formellement...
Il a dit,
j'ai vu les vidéos... La personne n'a pas été bousculée par un policier. Alors qu'il y avait des vidéos où on montrait que la personne était bousculée par un policier. Quoi. Donc c'est quand même hallucinant. Il a remaintenu deux fois cette version-là. Donc évidemment, il a changé d'avis. Bon, mensonge politique, ça, je ne parlais pas de Castaner et compagnie. Enfin, je veux dire, bon, parlons des personnes intelligentes. Brutalité dans les discours politiques. C'est-à-dire qu'en fait, là, il y a vraiment un discours martial qui vient quelque part entériner et débrider la violence policière. On appelle à un retour à l'ordre, etc. Et puis, cette question de la visibilité, on voit bien qu'à côté de ça, il y a des journalistes qui font un travail, donc c'était David Dufresne tout à l'heure, il y a des blogs qui recensent les violences policières, évidemment, on a l'heure des réseaux sociaux, donc les vidéos sortent, hein. Rappelez-vous l'affaire Théo, rappelez-vous pendant la loi travail aussi un jeune lycéen qui avait été frappé par des policiers, les vidéos sortent, donc du coup, bah, ça crée une forme de contradiction dans ces discours, dans les discours-là. Et peut-être la conséquence de ça, c'est que maintenant, c'est pas forcément nouveau, mais on l'a remarqué sur ce mouvement-là, les policiers attaquent les journalistes. Les journalistes, les photographes, etc., sont régulièrement la cible de flashball, etc. Et c'est pas un hasard. C'est bien qu'il y a un enjeu aujourd'hui de se rendre, pour le fait de rendre visible ces violences-là en termes de visibilité. Et évidemment, les procédures d'intimidation qui font face. Quoi. Mais malgré ça, je dirais, il y a des images saisissantes hein, qui sortent. Hein. J'ai parlé des lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont fait le tour du monde. Les visages des blessés. Des photos des membres blessés, beaucoup de choses qui choquent. Dernièrement, donc, la militante d'attaque de Nice qui a été grièvement blessée. Et donc, on parlera de cette visibilité dans le débat, mais il y a aussi un paradoxe de la visibilité. C'est-à-dire qu'à la fois, quelque part, ça rend visible les violences policières, ça met à nu le mensonge judiciaire, policier et politicien, mais en même temps, quelque part, ça contribue à diffuser l'image d'intimidation que se donne la police en donnant ces violences-là. Donc, il y a un fond de paradoxe qui est peut-être un peu indépassable. Donc en fait, nommer la violence, c'est un enjeu aujourd'hui, nommer la violence de l'État, pour éviter à la fois le parallélisme qui est fait, souvent l'espèce de relativisme en disant « oui, mais les gilets jaunes sont aussi violents ». C'est pas la même violence, et il faut avoir des formes d'analyse peut-être un peu différentes entre la violence policière et la violence quelque part qui répond à une violence sociale, et Marius en parlera tout à l'heure, et à cette violence policière, et que globalement, il faut nommer cette violence-là aussi pour démasquer la logique du pouvoir actuel, qui est une logique complètement autoritaire, pour imposer des mesures, des politiques qui n'ont aucune assise démocratique ni légitime en termes, je dirais même, de suffrage. Même si nous, anarchistes, critiquons cette démocratie représentative, même d'un point de vue cette démocratie représentative, ces politiques-là n'ont aucune légitimité par rapport aux évolutions qu'on connaît. C'est-à-dire les gens votent contre plus qu'ils votent pour, etc. etc. D'accord. Donc en fait, les enjeux qu'on veut poser un peu ce soir, c'est finalement interroger un peu le cadre politique à travers l'action de la violence, interroger le cadre politique dans lequel nous évoluons, et puis quelque part réfléchir aux réponses à apporter à ces violences-là, quoi, en fait. C'est-à-dire, est-ce que, en termes d'autoprotection, en termes de pratiques de violence, les débats autour de la violence au sein des mouvements sociaux sont des débats anciens, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils ne sont pas renouvelés par rapport à cette question-là ? Et puis évidemment, réfléchir aux conséquences en termes d'adaptation des pratiques de mobilisation par rapport à ces évolutions judiciaires, à ces évolutions politiques, pour savoir finalement comment nous adapter à ces différentes dimensions. Donc en fait, on aura trois intervenants. Donc il y aura Caroline qui va intervenir en premier pour apporter des éléments un peu d'analyse sur sa question des violences, de manière générale. Ensuite, nous aurons Eric donc, qui a pris les photos, qui viendra témoigner un peu de ce qu'il a pu voir, de ce qu'il a pu percevoir dans les manifestations qu'il a couvertes en tant que photographe, puisqu'il a été un témoin finalement privilégié, puisqu'il était en première ligne de ces violences. Et puis Marius qui donnera peut-être quelques éléments sur la question de quelle perspective par rapport à ces violences-là aujourd'hui en termes de pratique. Donc, je laisse la parole à Caroline.
Thank you. juste pour un petit peu commenter ce que tu viens de dire. Je serais assez d'accord pour parler de violence en ce qui concerne la police, dans la mesure où il y a atteinte à la personne, si je puis dire. En revanche, j'ai pas le sentiment que du côté des gilets jaunes, ce soit on ait constaté le même type de fait. En fait, je parlerais plutôt de dégradation que dégradation qu'on a pu voir, que ce soit sur les Champs-Élysées ou ailleurs. Mais je pense pas qu'on puisse mettre sur le même niveau, en réalité, ce qui est commis de chaque côté de chaque côté de la barrière, si on peut dire. Alors, je vais vous proposer quelques éléments d'analyse ou de réflexion sur le comportement de la police et la façon dont elle assure, si on peut dire, l'ordre dans le mouvement social. Donc, comme je voulais le dire un petit peu, je pense qu'il faut s'extraire d'une définition un peu trop restrictive de la violence qui concernerait simplement une atteinte physique, dans la mesure où, en l'occurrence, la police procède à des formes de discrimination qui sont relativement importantes et qu'on connaît assez bien dans les quartiers, si on peut dire, depuis assez longtemps, qui est aussi une forme de violence morale qui repose sur du profilage de personnes et un ajustement du comportement. Or, ce qui est assez intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit que le comportement qu'avait la police dans les quartiers dits sensibles s'étend en fait à un groupe de la population qui jusqu'à présent n'était pas forcément touché par ce genre de pratiques, et qui perçoit un peu mieux aujourd'hui ce que peut-être le comportement de la police avec des populations qui étaient marginalisées ou déconsidérées socialement. Alors, en ce qui concerne la gestion des mouvements sociaux, en fait, depuis qu'ils existent, si je puis dire, au moins depuis le 19e siècle, on a connu une pacification de la rue croissante. Autrement dit, en fait, ce que je voudrais essayer de dire, c'est qu'il faut recontextualiser un petit peu ce qu'on décrit comme la violence des manifestants aujourd'hui par rapport à ce qu'ont pu être les manifestations, que ce soit au 19e siècle ou y compris dans les années 70, où là, pour le coup, le degré de violence, c'est-à-dire en l'occurrence d'atteinte à la personne, était largement supérieur à ce qu'on connaît aujourd'hui. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui de la part du mouvement social, c'est, dans le meilleur des cas, on va brûler des poubelles. Et puis on va faire quelques graffitis sur des monuments historiques ou bien sur des commerces. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si on connaît un peu la façon dont se déroulaient les manifestations au 19e siècle et ce qu'elles ont été dans la suite du mouvement de mai 68, c'était quand même d'un autre ordre. Donc cette pacification, en réalité, elle s'est faite progressivement par collaboration, si je puis dire, entre les mouvements sociaux et leurs représentants avec la police, tout au long des décennies. Mais il se trouve que depuis les années 90, les affrontements entre forces de l'ordre et les mouvements sociaux ont pris une autre allure. En réalité, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que... ce qui est plus évident aujourd'hui, c'est que la police sert non seulement à maintenir l'ordre, si on peut dire, mais surtout l'ordre social, au sens où, par exemple, on voit assez bien que les policiers de la BAC, par exemple, à la fois maintiennent l'ordre public, mais aussi donc l'ordre social, c'est-à-dire l'idée que chaque citoyen doit rester à sa place, à la position sociale qui est la sienne. Et ça, on le voit de façon évidente, en fait, dans la gestion, si je puis dire, et la médiatisation, surtout, du mouvement des Gilets jaunes. Donc en fait, cette stratégie répressive, elle n'est pas simplement, ce que je dis c'est un truisme, mais elle n'est pas simplement le fait de la police, mais aussi évidemment des politiques publiques et de l'exécutif, en ce sens que cette conservation de l'ordre social passe par l'idée qu'on donne une sorte de chèque en grille en fait aux forces de police, au sens où on peut dire que finalement le capitalisme va utiliser des unités qui sont de plus en plus brutales, notamment on voit le comportement de la BAC à l'égard des manifestants, pour encadrer des catégories sociales qui sont contestataires. Alors, à Toulouse en particulier, c'est en particulièrement vrai, mais on voit bien en fait une forme d'autonomisation de ces brigades anticriminalité qui n'ont rien à faire là, dans la mesure où la manifestation n'a rien à voir avec un crime ou un délit. Et c'est pas en fait le bris de vitrine qui peut justifier ça. Mais il y a une sorte, en fait, un jeu entre autonomisation de ces unités musclées en fait de la police, qui, là encore, joue comme une forme de contrôle ou de technique de contrôle social. Alors, en fait, ces unités de police qui s'autonomisent, parce qu'on voit par ailleurs que le comportement des gendarmes mobiles est beaucoup plus, on va dire, cadré ou discipliné que celui de la BAC. En fait, ce comporte cette militarisation de la police à travers la BAC est à la fois un symptôme, mais aussi une forme d'agent catalysateur de la répression, évidemment. Alors, en fait, ce qui se met en place, c'est une sorte de stratégie de la peur, et on le voit à de multiples niveaux, que ce soit à travers la médiatisation qui est faite du mouvement social, du discours, comme disait Tristan, que proposent les médias sur le mouvement social. Stratégie de la peur qui consiste à en frapper un, c'est le cas de le dire avec les flashballs, par exemple, pour en éduquer 100. Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir des actions suffisamment fortes, impressionnantes, pour essayer de dissuader les gens. Vous remarquez que ça fonctionne extrêmement bien, puisque, au final, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on annonce dans les médias, de décroissance du mouvement social. Donc, en fait, ce qu'on voit, comme tu le disais, c'est une espèce de retour en force d'un régime politique qui passe par la coercition, puis alors là, clairement, l'écrasement, enfin au moins la tentative d'écrasement du mouvement social. Alors, bon, c'est pareil, je vais pas entrer dans le détail, mais comme le disait Tristan, depuis 2016 en particulier, on voit que la police revendique la possibilité d'être plus autonome, d'avoir des armes de défense, enfin de défense, des armes offensives en fait, de plus en plus importantes, et l'État, enfin le gouvernement, répond systématiquement en réalité, et on comprend bien pourquoi, parce que sans la police, bah, c'est difficile de se maintenir dans la situation. Donc répond systématiquement aux demandes de plus d'armes et de davantage de droits en réalité pour la répression. Alors, bon, c'est juste une parenthèse, mais en fait ça passe par par une logique de réponse à des marchés de l'industrie de l'armement qui sont tout à fait traçables et pour le moins intéressantes, notamment en ce qui concerne les armes de défense et les lanceurs de balles de défense. Alors, en fait, il ne faut pas penser que c'est espèce de dérive, du moins cette autonomisation de certaines unités de police soit en réalité une dérive. En fait, pas du tout. C'est pas une dérive extérieure au système, c'est un élément qui est nécessaire à son maintien. Bon, c'est pareil, hein, c'est un truisme, mais il faut quand même en avoir conscience, parce que même si on a l'impression que, enfin, des fois, quand même, ils savent pas viser ces malheureux policiers, mais en fait, pas du tout, hein, surtout que, bon, c'est vrai qu'ils sont pas très bien formés, mais quand même, ça participe, en fait, complètement du maintien du système politique, économique, surtout, parce qu'encore une fois, cette revendication, comme vous le disiez tout à l'heure, sociale et de justice, si elle a lieu maintenant, c'est bien pour des raisons qui sont économiques et sociales. Alors, bon, c'est pareil, je pourrais aussi vous parler de l'impunité judiciaire, mais en réalité, quand... alors, évidemment, on trouve ça scandaleux qu'on tire sur la population, hein, que ça soit la gendarmerie, la BAC, peut-être un jour les militaires, un jour proche, mais en fait, les services de police ne produisent de pénalisation de ce type d'acte, jamais en fonction de l'intensité de la violence, c'est-à-dire que l'IGS, donc police des polices, si je puis dire, ne va jamais réprimer le fait que vous ayez pris un flashball. Les seules fois où les policiers sont dans des situations où ils vont avoir à répondre pénalement de leurs actes, ce ne sont jamais des situations où ils ont utilisé trop la violence, mais simplement des situations où ils ont détourné leur fonction d'agent public. Autrement dit, quand ils ont détourné de l'argent, fait des malversations, frappé leurs épouses, etc., leurs enfants. Mais jamais ou presque, hein, c'est les cas sont infimes, sauf quand il y a une énorme médiatisation, des cas où vraiment ils ont un peu trop tabassé des manifestants ou des gens, peu importe. Alors, juste pour dire deux mots de plus sur les stratégies de maintien de l'ordre. Alors, il y a effectivement différents aspects. Donc, il y a le tabassage en règle, effectivement. Mais il y a aussi un certain... Enfin, donc, ce qu'on peut appeler des violences sur les manifestants. Mais il y a aussi beaucoup de stratégies de neutralisation et... Enfin, neutralisation d'intimidation. Alors ça, évidemment, ça passe par des moyens qui sont un petit peu plus... subtil, si on peut dire, tout ce qui concerne le renseignement et l'infiltration, parce qu'évidemment, il faut bien penser que les policiers infiltrés sont quand même assez nombreux dans tout type d'assemblées et de mouvements sociaux. et qu'en fait, la mise en place des dispositifs de sécurité qui sont importants, donc les zones interdites, là, le Capitole, on n'y va plus, les Champs-Élysées, c'est pareil. l'ensemble de l'équipement des gendarmes mobiles, par exemple, font partie de toute une stratégie qui est censée être de dissuasion, mais qui est en fait là pour intimider. Alors ça s'appelle, si on veut, le modèle de Minami. Donc, qui consiste à interdire des secteurs aux manifestants. Alors, on a ça dans les médias mainstream que je pratique assez peu au demeurant, mais où consiste à critiquer publiquement les manifestations. Alors là, BFM, franchement, je pense que c'est un exemple paradigmatique. On les présente toujours comme très manifestants, hein, parce que franchement, ces gilets jaunes, de toute façon, avec tous ces casseurs, l'ordre républicain ne peut pas demeurer. Et parmi cette stratégie aussi, on procède à des arrestations préventives qui, comme tu l'as dit, sont attentatoires aux libertés publiques. On fait des arrestations de masse, mais tout ça, en fait, c'est pas du tout... comme vous vous en doutez, c'est pas du tout du hasard. En fait, ça procède d'une stratégie parfaitement pensée, réfléchie et, en plus, documentée. Alors... Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aujourd'hui s'étendre à des citoyens ordinaires, si je puis dire... Une pratique policière qui avant était plutôt concentrée sur ce qu'on peut dire l'extrême gauche, c'est-à-dire que les policiers ont tendance à procéder à des arrestations non pas en fonction de ce que les gens font, mais plutôt en fonction de la cause qu'ils défendent ou de leur identité politique et idéologique. C'est-à-dire que là, pour le coup, il y a guerre de présomption d'innocence, si je puis dire. Mais en fait, les policiers ont en tête des stéréotypes de manifestants et d'individus qui légitimement peuvent manifester ou pas. Donc vous avez la CGT qui est sympathique avec ses banderoles, tout ça, il y a le service d'ordre, c'est cool, on peut discuter. Et à côté de ça, vous avez les casseurs qui sont absolument ingérables, forcément, parce qu'il n'y a pas de représentants. Et ceux-là, systématiquement, c'est sûr, ils ne sont pas la bonne cause, ils n'ont pas la bonne identité politique. Par conséquent, ce sont des individus d'emblée classés comme dangereux. Jeune homme irresponsable, des voyous, des casseurs, des anarchistes, parce que, des anarchistes, par opposition au bon père de famille qui a le droit légitimement de revendiquer, qui a le droit de revendiquer ses droits, si je puis dire, mais qui au moins porte des revendications respectables et légitimes. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, avec le mouvement des gilets jaunes, quoique certains gendarmes peuvent éventuellement se poser des questions, on voit bien que cette partition, si effectivement elle continue d'être défendue dans les médias, et quand même dans la pratique du maintien de l'ordre, entre guillemets, est un petit peu remise en cause. En fait, les stéréotypes, si je puis dire, de la représentation du bon manifestant et du mauvais manifestant commencent à se brouiller dans l'esprit des gendarmes. Néanmoins, en fait, dans les deux cas, ce qui est produit, et ça pour le coup c'est un peu moins rigolo, c'est quand même l'image d'un ennemi intérieur, parce que c'est bien ce qui se passe en fait dans les médias, mais aussi... en grande partie dans l'esprit des policiers, qui en fait vont justifier, dans la mesure où l'ordre républicain est mis en question, à ce moment-là, l'ennemi est identifié, et par conséquent, ça justifie n'importe quel type d'opération policière pour neutraliser militants et militantes dans les manifestations. Alors, donc là, je vous disais en fait qu'on a quand même, avec le mouvement des Gilets jaunes, un élargissement à l'ensemble de, enfin, catégories sociales qui jusqu'à présent n'étaient pas concernées, d'une espèce d'identification qui auparavant était plus ciblée en fait sur des groupes politiques. Alors, ce qu'on observe en plus, donc l'identification de l'ennemi intérieur, la criminalisation des mouvements sociaux qui passe par le fait que il y a des casseurs, ça c'est bien connu. Après par exemple, pénalise le petit commerce, sur les Champs-Élysées, c'est clair que c'est les épiceries de quartier qui sont attaquées. Et tout ça permettant de déployer donc à la fois les forces de l'ordre, mais surtout des évolutions législatives qui en fait tendent à faire converger des lois profilées en fait comme pour les lois antiterroristes qui finissent par s'appliquer aux mouvements sociaux. Et puis en plus, comme on a eu un certain nombre de lois, notamment sur la sécurité intérieure et le renseignement, qui ont été mises en place en 2015, qui en fait sont extrêmement utiles dans des moments de crise sociale et politique pour ensuite permettre de bien identifier où sont les gens, comment ils font et avec qui ils communiquent. Alors, je vais peut-être m'arrêter là sur tout ça, simplement pour dire qu'effectivement... l'ensemble de ces dispositifs, qu'ils soient policiers, médiatiques ou judiciaires, permettent d'instaurer finalement le manifestant comme un sujet dangereux et pas simplement quelqu'un qui revendique des droits ou bien une évolution sociale qui puisse lui être quelque peu favorable. je vais m'arrêter là.
Ok, merci. Du coup, Rix, tu veux...
Après tout ce qui a été dit, enfin, on a fait déjà pas mal le tour du contextuel des violences. Comme il a été dit tout à l'heure, moi je suis photographe, donc je suis vraiment au cœur, depuis le début, de la montée en puissance de ce mouvement. Le 17 novembre, j'y suis allé en touriste, on va dire ça, sans avoir conscience de ce que ça allait donner après, puis quand j'ai mis le doigt dedans, j'ai pas pu lâcher. Comme je suis pas le seul. On est une dizaine de photographes à être sur le terrain tous les samedis, mais pas que, on fait aussi les manifestations des femmes qu'il y a eu, les manifestations syndicales, toute la périphérie du mouvement. Donc ça permet d'avoir une vue un peu panoptique de ce qui se passe. Les photos, j'espère qu'elles parlent d'elles-mêmes. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a assisté à une montée en puissance de ce contexte répressif, décembre, janvier. Après, il y a eu un petit creux, et là, ça repart vraiment plein pot. Pour les raisons qui ont été effectivement décrites tout à l'heure. Je vais peut-être plus recentrer, moi, sur la problématique des photographes, des journalistes, au sens large du terme, qui sont sur le terrain, et avec les difficultés qu'on a à travailler. En effet, je suis témoin qu'on est pris pour cible depuis le début, pas le 17 novembre, mais peut-être le 24 ou le 1er décembre, très tôt, très vite. Pour ma part, j'ai été touché déjà 4 fois, physiquement. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Dans le détail, deux grenades de désencerclement, une de souffle, je ne sais plus comment elle s'appelle. Soufflante. Voilà, et puis un LBD en plein milieu du front dans le casque. Voilà. Donc j'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. À quelques millimètres, je ne serais pas là pour en parler. Donc c'est quand même assez choquant. Nous sommes tous choqués de plus en plus. On assiste à des scènes complètement surréalistes. Sur le terrain, ce qu'il se passe, c'est qu'on a souvent des nasses, des boulevards, des rues adjacentes qui sont bloquées par les cordons de CRS, qui sont de plus en plus agressifs, de plus en plus hystériques parfois. Et sur les côtés, on a la BAC, qui a été aussi décrite tout à l'heure, qui sont complètement déchaînées. On subit des bousculades, des insultes depuis le début. Il n'y a aucun problème, aucune retenue à ce niveau-là. Non seulement envers nous, mais envers évidemment les manifestants, envers les médics. C'est quand même assez impressionnant. Sur les 587 signalements qui ont été faits depuis le début à l'IGPN, on a 60 journalistes quand même, hein, sur ce nombre-là, dont je fais partie, puisque j'ai été touché il y a trois semaines, un mois, place du Capitole, avec deux photographes, des collègues, en pleine place du Capitole. Vous savez qu'il y a plein de caméras partout. Et en fait, il ressort que nous... Alors, plainte déposée à l'hôtel de police, IGPN derrière, tout a été fait dans les règles de l'art pour faire remonter ces témoignages. C'est aussi notre rôle de terrain, de faire remonter absolument tout ce qui... Enfin, quand on assiste à des violences sur des manifestants ou autres, ou même sur nous-mêmes, on fait remonter. C'est cette espèce d'état d'esprit de témoignage absolu qui m'habite, en tout cas moi qui m'habite, et qui me donne la force et l'envie de continuer. Donc 60 journalistes quand même. Sur la genèse et l'évolution du mouvement, ce que je peux vous dire, c'est que contrairement en effet à ce qui est dit dans les médias, les Gilets jaunes, ce ne sont pas des sauvages, ce sont des citoyens légitimes, en difficulté, qui mettent en avant en effet de l'injustice sociale, fiscale, etc., politique, au sens large du terme après. Et ils sont plutôt sympas avec nous, dans le sens où nous, on a aussi fait pas mal de travail de relations, de relationnel sur place. Au début, on a eu quelques soucis, parce qu'il s'était marqué BFM TV ici, c'est tout à fait normal. Donc il a fallu décrypter tout ça. Donc aujourd'hui, encore une fois, là je ne suis pas le seul, mais je peux en témoigner, on est très très bien accepté, on se connaît, les gens nous connaissent. Ça nous permet d'avoir un relationnel de terrain qui nous permet de nous sécuriser, parce qu'on peut éventuellement, en cas d'agression, se protéger les uns les autres. Les médics sont eux aussi, et merci à eux, vraiment. Heureusement qu'ils sont là. Sont eux-mêmes visés, touchés, bousculés, insultés, etc. Faut pas se leurrer. Tout le monde est concerné. Les passants dans la rue, les papis, les mamies, les adolescents, les enfants, etc. On a vu des scènes absolument terribles, surtout au mois de décembre, je disais tout à l'heure. Et là, ça repart plein pot. Pour le contexte que l'on connaît tous, hein, l'apparition des soldats, des forces armées, etc., qui sont là. Enfin, on assiste à une schizophrénie complète du pouvoir qui franchit les lignes rouges. Nous, on se demande... C'est pas la première fois qu'on se le demande, mais ça revient maintenant. On se demande quand est-ce qu'on va bientôt... Enfin, peut-être qu'il va falloir bientôt venir bosser avec un gilet pare-balles. Enfin, on en est là. On en est là. D'accord. Donc, c'est extrêmement problématique. Parce que moi, j'ai l'impression qu'à partir du moment où un système démocratique commence à toucher à la presse, aux journalistes, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et c'est très, même, moi je pense, très très inquiétant pour les semaines qui vont suivre et les mois qui vont suivre. Quoi. Voilà. Alors, juste un mot sur le pourquoi cette répression et aussi vis-à-vis des photographes et des journalistes. À partir du moment où ce mouvement est hors cadre syndical, hors cadre organisationnel, sans représentation, on l'a vu tout à l'heure, quand il met en cause, quand il remet en cause depuis 2015-2016 de notre travail, il remet en cause cette thématique de la convergence des luttes. Ça fait peur à l'État, ça fait peur au gouvernement, ça fait peur au système. À tel point qu'on sent sur le terrain qu'ils sont tellement en panique qu'on lâche la bride, et donc toutes les forces de police sont là pour vraiment, tu l'as dit, écraser complètement les gens. C'est vraiment ça. Donc on vient avec des casques, des masques, double pantalon, une coquille. Pour les parties génitales, il y a eu quand même, j'ai plus le chiffre, mais une dizaine de personnes touchées quand même aux parties génitales, je ne dis pas. On vient avec tout le matériel, on a l'impression de partir en guerre, enfin, c'est vraiment ça. Un LBD, pour ceux qui n'en ont jamais vu, c'est ça, d'accord. Ça fait 40 mm, le LBD 40, donc c'est un truc, c'est du pneu de tracteur. Ça part à 320 km/h, il y a deux forces de tir, une 50 et une 100 mètres, deux forces. Voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, ceux qui n'ont jamais vu, je vous invite à juste évaluer un petit peu les risques que ça peut faire. Juste un dernier mot sur le côté psychologique. Moi, alors juste un mot aussi sur la dernière manifestation du 23 là. Ça remonte effectivement en puissance. Là, ça a été vraiment très très choquant à tout point de vue. Sur le débridage des forces de police, des forces de l'ordre, on assiste à de la sauvagerie totale. Vous le savez, hein, on l'a dit, Toulouse est un des points forts en France, mais on a dit que oui, dans Actu Toulouse, dans La Dépêche, dans les médias autorisés, on va dire, c'est à 16h30-17h, hein, c'est le moment de la journée où ça bascule dans la violence. Sauf que là, samedi dernier, 15h, boum, ils ont foncé dans le tas, et sans chercher à comprendre ni comment ni pourquoi ils sont foncés dans le tas. Donc c'est vraiment très très impressionnant.
Pardon. Couper la manif pour enlever la banderole pour pas qu'on se protège.
C'est une stratégie militaire de couper le cortège en mille morceaux, de le nasser, de partir là-bas qui sont très rapides, hein, ils traversent les boulevards, ils vont vous chercher dans les petites rues systématiquement. Donc on casse le mouvement en mille morceaux et on va faire des arrestations, on tape dessus comme des brutes. Samedi dernier, 8 médics blessés, deux ou trois journalistes touchés. Je crois que c'est trois.
J'ai pas filmé.
Tu n'as pas filmé. C'était un collègue vidéaste, photographe aussi, qui s'en tient. Voilà. Je veux dire, on est une dizaine ou une quinzaine de journalistes et de photographes et de vidéastes sur le terrain. Une quinzaine de photographes de Toulouse, hein, qui sommes là depuis le début, on a tous été touchés, tous, deux ou trois fois. Donc on a vraiment la trouille, quoi. Et là, moi, je suis très inquiet et très angoissé par rapport aux samedis qui vont suivre. Parce que je serai là, on continuera, parce qu'on ne lâchera pas. On les dérange, effectivement, là-bas, qui sont terribles. Hein, ils vous lancent des regards de tueurs, ils vous montrent du doigt en disant « Viens comme ça, disant, toi, la prochaine fois ». Je te louperai pas. Ça, c'était ça, le samedi dernier. Moi-même, on m'a fait des trucs comme ça. Donc, l'idée, c'est physique. Hein, on essaye de se protéger les uns et les autres. On ne va pas dans les curieux adjacentes seuls. On en est là. On y va toujours à deux ou à trois. On peut. Les lacrymos, on a l'habitude, on connaît par cœur. On est vraiment on a basculé vraiment maintenant dans une autre dimension, ce qui nous fait vraiment plus peur. Et là, les LBD sont revenus samedi dernier, donc c'est parti pour revenir plein pot, les grenades et les LBD, j'en ai pris dans les pieds encore samedi dernier. Donc voilà, c'est quand même cette réalité. Pour conclure, hein, moi je pense vraiment que pourquoi cette répression, y compris envers les photographes et journalistes, c'est parce que ce mouvement, en fait, il dérange vraiment, vraiment le système dans ses racines, système capitaliste mondialisé, on va dire ça comme ça, pour aller vite, on va faire un débat de philosophie politique, mais c'est quand même ça, et c'est pour ça qu'il y a cette violence. Ça fait... David Dufresne cite la guerre d'Algérie, enfin, ça fait les années 60, on n'a pas vu ça, cette violence-là, policière, on ne l'a pas vu depuis cette époque-là, quand même. Donc les plus jeunes ne se rendent pas compte de la dichotomie vertigineuse d'un État complètement, d'un gouvernement complètement sourd à cette réalité-là. Voilà. Merci.
Une dernière intervention, Marius.
Alors du coup, avant de laisser la parole à la salle, parce que vous avez sûrement des réactions et l'envie de débattre, je me propose...
Excusez-moi, juste un mot pour conclure, c'est important. Je voudrais souligner aussi la présence des femmes, de leur détermination, de leur courage, à être souvent devant et à souvent emmener la colère légitime, pour le coup. Moi, je le pense vraiment. Et donc voilà, je voulais juste dire un mot, un hommage aussi à ces femmes qui sont là, qui ont organisé plusieurs manifestations de femmes les dimanches, quand même, sur Toulouse, et le plan national aussi. Et elles sont plutôt, ça fait plutôt du bien de les voir là. Et on nous dit parfois que ça rappelle la Révolution française. Hein, c'est les femmes qui étaient devant. Et à chaque mouvement insurrectionnel, on dit que quand les femmes sortent dans la rue... c'est pas de bon augure, en tout cas pour les politiques. Voilà, merci.
Alors du coup, je vais partir des différentes formes de violence pour ensuite parler un peu des perspectives. Donc on a vu dans les interventions ce que fait l'État face à la révolte populaire, c'est des coups de matraque, des flashballs, des blessures, voire des morts, en plus des peines de prison, des amendes, etc. Mais au final, la violence dans notre société... Elle est due à l'injustice sociale, elle est générée par un système économique et écologique qui est à bout de souffle et qui accroît depuis la crise de 2008 la paupérisation des couches populaires. Et donc c'est le principal moteur de la révolte des Gilets jaunes, mais il est diffus et pas perceptible au premier abord dans les médias. La violence qu'on voit, qu'on entend du coup, elle passe également par les mots. Dans les discours politiques, Macron, c'est l'incarnation même de l'usage de la violence par les mots et du mépris de la part des premiers de cordée. Le dernier exemple en date de son mépris, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est la manière dont il qualifie la manifestante blessée par la police à Nice. On retrouve cette agressivité et ce mépris chez les éditocrates et les intellectuels élitistes qui se déchaînent sur les radios-télé, dans les journaux officiels, et qui sont tous ces médias qui sont possédés par les grandes fortunes, comme on le sait. Donc dans ces médias, on parle de fouleneuses, de complices de casseurs, de fainéants, de tueurs de flics, pour qualifier la révolte des Gilets jaunes, souvent dans son ensemble, sans même se soucier en fait des causes de cette révolte. Chaque semaine a eu son lot d'invectives médiatiques. On parle de destruction des commerces, de baisse de la croissance, des recettes de l'État, l'atteinte aux symboles de la République... les policiers agressés, bien sûr, l'augmentation de la mortalité routière qui serait due à tout ça. On va parler de l'antisémitisme qu'on fond avec l'antisionisme. On va parler du racisme, etc. Mais pour Macron, pour Macron et ses amis, tout est la faute des Gilets jaunes. Et donc, il se dédouane ainsi de la responsabilité première de l'État à mener sa politique destructrice du bien public, de l'emploi, par le fait de privilégier le capital. Au détriment du travail salarié, etc. Donc ça, c'est la violence principale, donc c'est ça qu'il faut dire autour de nous, encore et toujours. Elle vient de l'État et du capitalisme, et de tous les outils dont ils disposent pour se protéger. La police, la justice, les médias. Donc en face, qu'est-ce qu'on a ? On a des gilets jaunes qui s'organisent sur une base joyeusement illégale. Occupation, blocage, manifestation parfois sauvage. Et donc, ça peut être débattu, mais il y a une certaine pratique de la violence dans notre camp, qui n'est pas nouvelle, mais qui a pris davantage d'ampleur avec le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, souhaiter dire que cette violence, elle était de trois ordres. une violence tout de même assez symbolique, même si pour le coup, bah, sur ce mouvement, l'impact économique peut être perceptible. Donc la casse qui vise les banques, les agences d'intérim, les agences immobilières, les pubs, les publicités agressives et sexistes, les péages, les radars, la porte de Benjamin Griveaux, les symboles de luxe, les grosses voitures, les boutiques sur les Champs-Élysées, etc.
Les Porsche.
Pardon ?
Non, les Porsche.
Oui, voilà, tout à fait. Ensuite, on peut parler de l'autodéfense face à la police. Prendre le... S'équiper, rester, tenir la place, faire nombre pour protéger certaines actions, empêcher les interpellations, et aussi des manifestants qui tiennent tête et font reculer la police. Donc ça, il faut quand même le souligner, comme aux Champs-Élysées ou plus ponctuellement dans d'autres villes. Par contre, on peut aussi parler de manière, qu'il y a de manière plus ponctuelle une violence entre différentes composantes des Gilets jaunes, ou en tout cas entre différents groupes qui tentent de faire partie des Gilets jaunes. Alors cette violence, elle peut être liée à des groupes d'extrême droite qui viennent attaquer des cortèges, notamment les cortèges anticapitalistes, donc cortège du NPA à Paris ou celui du pôle anticapitaliste à Lyon. Cette violence des fachos, elle s'exprime pas que en manifestation, elle est aussi dans les discours complotistes, racistes, homophobes, sexistes et haineux. Donc les affrontements qu'il a pu avoir entre les militants d'extrême gauche et d'extrême droite ont été relégués par les médias comme de simples règlements de compte entre extrêmes. Pourtant, la présence physique en fait, des camarades antifascistes a permis de marginaliser la parole fasciste. Je pense que c'est important de le souligner. Mais il ne faut pas minimiser en fait, cette parole qui se retrouve dans les actes agressifs dans certaines régions, sur certains ronds-points. Pour les réseaux complotistes qui avancent masqués, la question est bien plus ardue parce que le triptyque entre guillemets banque juive, franc-maçon, pouvoir corrompu a la rumeur dure au sein d'une partie des couches populaires. Et donc sur les questions du racisme et de l'antisémitisme, il faut continuer en fait à discuter avec les gens, à combattre ces idées-là. On essaie de faire des tracts, des communiqués, etc. Faut vraiment encourager les gens à continuer sur cette démarche-là. Ensuite, un petit point que je vais aborder. Une fois la présence physique de l'extrême droite marginalisée, et une fois les banques et les autres agences immobilières barricadées derrière des panneaux de bois, on voit que la violence se ritualise au fil des samedis, sans perspective politique réelle. Le mouvement peine à évoluer, à bloquer de manière plus efficace l'économie, alors qu'il faudrait une grève de masse, des sabotages et des blocages de flux et de marchandises. De fait, on peut avoir une impression d'enlisement, en tout cas que le mouvement s'essouffle. Et l'inquiétude face à ça se sent dans les échanges qu'on peut avoir autour de nous, sur nos lieux de travail, parmi nos amis ou au gré des rencontres. Pourtant, le mécontentement, il est quasi général. Macron et sa clique sont détestés dans la population quand même. Et une grande partie de ceux et celles qui applaudissaient la police après les attentats se mettent à la haïr, par les preuves des faits en fait. Et donc ce mouvement, il reste quand même historique par son ampleur, sa durée, sa détermination et aussi la spontanéité. On peut poser deux questions. Est-ce qu'il peut y avoir une démocratie au sein d'un système libéral puisqu'on laisse les rênes de l'économie aux mêmes capitalistes? Et comment on peut redistribuer les richesses produites sans révolution sociale? C'est une autre question qu'on a bien envie de poser à Alternative Libertaire. En cela, on dit aussi que le RIC, qui est parfois proposé, c'est qu'un pansement pour la démocratie représentative. Et ce n'est même pas comme ceux et celles qui le promeuvent un outil participatif parce que sera piloté par le haut en fait. Donc ce mouvement des Gilets jaunes, pourtant, il est ce qu'il y a au niveau démocratique, de plus proche des idées libertaires, avec l'organisation à la base par assemblée générale, le refus des leaders, les mandats impératifs dans beaucoup d'endroits, l'organisation horizontale de ces AG et l'envie d'organiser horizontalement la société qui s'exprime souvent, et le rejet des institutions existantes, étatiques, la critique de tout ce que fait l'État en ce moment. Et donc une de nos tâches principales, c'est de faire reconnaître en fait au sein des Gilets jaunes le côté libertaire de l'auto-organisation, tout en prenant l'autogestion économique, parce que on pense que ça passe par les moyens de production, en fait, le fait de se battre contre cette société injuste, et donc promouvoir l'exemple de structuration démocratique telle que les Gilets jaunes de Commercy ou de Saint-Nazaire qui ont montré la voie dans ce mouvement, qui l'appliquent d'ores et déjà. Ensuite, on pense qu'il faut continuer à maintenir la pression permanente dans la rue. Déjà parce que, avec toutes les interviews précédentes, on voit que l'État est sur la stratégie de la peur. Donc si on a peur et qu'on ne va plus en manif, ils ont gagné. Donc pour nous, c'est hors de question d'arrêter. Continuer à maintenir cette pression dans la rue, d'y faire le lien avec en fait, les autres mouvements, les mouvements écologistes, le mouvement syndical. Si par exemple l'écologie, parfois on peut dire qu'il n'y a pas forcément de débouchés immédiats parce qu'on a... On n'a pas de choix autre que de vraiment déstabiliser les institutions bourgeoises, puisqu'on est sur un système qui garantit la recherche du profit et de la rentabilité. Donc, il n'y a pas vraiment de débouché forcément tout de suite immédiat sur l'écologie. Enfin, petit mot de conclusion, déconstruire aujourd'hui, c'est préparer l'avenir. Il faut faire exister une autre société égalitaire et écologique. Donc, ça passera pour une révolution profonde de nos rapports sociaux et économiques. Donc en tant que révolutionnaire, communiste et libertaire, on n'est pas par défaut partisan d'une solution violente, mais on peut dire que l'essentiel dans un processus de transformation, c'est dans l'œuvre qui construit, dans l'œuvre constructive, qui nécessite malgré tout une autodéfense de la population pour préserver les acquis et pour se protéger de la violence de l'État aussi. Mais le degré de violence d'une révolution, ou en tout cas d'une révolte de masse, c'est d'abord choisi et imposé par les classes dirigeantes qui se sentent menacées et qui peuvent potentiellement être renversées. Et donc cette violence, elle peut être donc nécessaire lorsqu'elle répond en fait à ça et qu'elle vise une stratégie pour renverser les classes dirigeantes. Et donc il faut bien sûr faire preuve d'organisation et aussi de vigilance parce que il faut se garder des excès et du danger de militarisation, de ritualisation, etc. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à la salle. Donc je vais prendre les inscrits avec double liste et priorité pour les femmes. Juste... Je prends un stylo et il faudra dire par contre le prénom parce que je ne connais pas tout le monde.
Quoi ? Merci. Tu n'as pas encore les listes sur tout le monde ?